Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, donc, je m'appelle Raphaël Gavazzi, je suis comme Françoise l'a dit, je suis chercheur à l'Institut d'astrophysique tout proche. Donc, j'étais censé parler de cisaillement cosmique. Et puis, j'étais un peu pris par le temps et je me suis excusé auprès de Françoise et je m'excuse encore pour avoir changé le titre et un peu changé le sujet parce que j'avais peu de temps pour préparer une présentation sur le sujet du cisaillement cosmique. Donc, je vais plutôt dériver sur les galaxies, les amas de galaxies. J'avais du matériel un peu plus près. Et donc, c'est de ça que je vais parler. Donc, l'introduction, l'optique gravitationnelle, vous venez d'en entendre parler beaucoup, donc je vais être très rapide. Mais aux échelles extragalactiques, en tout cas, l'optique gravitationnelle s'utilise depuis la déflexion des rayons lumineux qui sont ici émis par le fond diffus. Et les rayons lumineux traversent un univers structuré en amas de galaxies, en grandes structures, en vide et filaments, jusqu'à nos observateurs. Et donc ces déflexions successives subies par les rayons lumineux vont se manifester aussi bien dans la distribution de lumière du fond diffus qu'à d'autres échelles, si on considère des objets, des sources d'arrière-plan plus proches, dans les déformations et les systèmes d'images multiples que l'on peut voir dans le régime de distorsion forte ici, comme par exemple dans ce cas spectaculaire d'une galaxie d'avant-plan, une galaxie elliptique qui produit un anneau d'Einstein, donc des distorsions très fortes dans les régions centrales de la galaxie, produit des distorsions très fortes et très faciles à voir à l'œil nu. Donc ce phénomène est vraiment tout à fait similaire à ce qu'on peut produire chez soi avec un verre de vin. Vous voyez ici le pied d'un verre qu'on place devant une bougie, et suivant comment on oriente le verre à pied, on peut voir l'apparition d'images multiples d'anneaux d'Einstein, de systèmes d'images multiples avec des configurations de folds, de cusps, d'anneaux, etc. Donc l'optique gravitationnelle, ça peut se faire à la maison. On distingue deux régimes principaux, donc le régime des distorsions faibles et le régime des distorsions fortes. Évidemment, le régime des distorsions fortes, on le voit quand les distorsions sont fortes, c'est-à-dire qu'on peut les voir quand elles sont. Ça va vraiment être manifeste d'observer des objets d'arrière-plan distordus de manière dans le régime strong lensing ou des distorsions fortes. Ça se produit au cœur des galaxies, au cœur des amas de galaxies. La densité de surface, la masse est suffisamment concentrée au cœur de ces galaxies pour produire suffisamment de déflexions et induire des distorsions importantes. Donc ici, par exemple, dans cette image simulée, on voit qu'on devine qu'il y a quelque chose ici, une distribution de masse qui n'apparaît pas là, mais qui déforme les galaxies. Et à mesure qu'on s'éloigne du centre de cet amas de galaxies hypothétique, on voit que les distorsions sont de plus en plus faibles. Donc ici, c'est le régime du strong lensing, des images multiples. À mesure qu'on s'éloigne, les distorsions sont plus faibles et on rentre dans le régime du weak lensing, du cisaillement ou distorsion faible. Quand on arrive dans ce régime, les distorsions sont tellement faibles qu'on ne peut pas les voir sur des objets individuels. Ici, par exemple, sur toute cette population de sources d'arrière-plan, on devine, enfin, il faut vraiment faire des statistiques, regarder l'ellipticité moyenne de toute cette population de galaxies pour voir qu'il y a en fait que ces galaxies ne sont pas orientées de manière aléatoire, mais qu'elles subissent un effet de polarisation systématique, un peu à la manière de la limaille de fer qui baigne dans le champ magnétique d'un aimant. Donc toutes ces ellipticités induites et systématiquement cohérentes sur des échelles relativement grandes, c'est le régime des distorsions faibles. Donc l'équation des lentilles, vous venez de la voir, et tout le formalisme, je vais passer très vite. Je vais surtout rappeler que les distorsions, je ne sais pas si vous voyez bien ici le schéma, mais je vais parler de la déflexion, donc c'est l'amplitude d'une déformation. Donc quand on va relier la position d'un objet dans le plan image, donc c'est un objet tel qu'on l'observe, à un objet tel qui, à la position qu'aurait cet objet en l'absence d'une lentille, on va se baser sur cette équation. Donc le formalisme mathématique est très simple pour l'optique gravitationnelle, il se base essentiellement sur cette équation et sur les développements locaux, des développements limités de cette équation. Donc ça relie une point du plan image à un point du plan source, et localement, pour un rayon lumineux observé en position θ, on peut déduire, en connaissant la déflexion, donc le alpha, qui est le gradient du potentiel gravitationnel, on peut déduire quelle serait la position de la source dans le plan source, en l'absence de lentillage. Cette déflexion est vraiment reliée au potentiel gravitationnel, et partant à la masse, ici pour une masse ponctuelle. Et voilà, donc les déflexions. Localement, si on regarde deux rayons lumineux voisins, séparés par une petite. Légèrement distants l'un de l'autre, si on fait un développement limité de cette équation, on va avoir des déformations. Un faisceau lumineux va être déformé et va suivre l'amplitude des déformations. Isotropes et anisotropes vont être décrites par la matrice d'amplification, avec un terme isotrope qui est la trace de cette matrice, un moins kappa, donc ça c'est la convergence. Les objets qui vont être légèrement distordus vont l'être de manière isotrope, vont être un peu plus gros ou un peu plus petits. Leur brillance de surface, comme l'a dit Françoise, va rester inchangée. Par contre, on voit que cette matrice, qui est un peu coupée ici, mais il y a une partie qui est sans trace, qui est donc le gamma 1, gamma 2, et donc les termes de cisaillement, eux, vont induire une déformation anisotrope, donc un allongement d'une galaxie, un changement d'ellipticité. Et essentiellement, le régime du Lewis Lensing s'intéresse à la mesure de ces ellipticités induites par le régime faible. Donc tout ça, c'est très intéressant au niveau extragalactique. Pour aborder différents problèmes, je vais surtout parler ici du profil de densité des halos, les halos de matière noire qui entourent les galaxies et les amas de galaxies, et voir ce que ça pourrait, même si je ne vais pas en parler, de ce que ça pourrait nous enseigner sur les propriétés de la matière noire, puisque ces halos de matière noire sont... puisqu'on sait que l'évolution des galaxies se produit dans le régime, dans le contexte du lambda CDM, donc un modèle de matière noire froide. Et donc l'évolution de ces structures est vraiment gouvernée par la matière noire qui est le traceur, vraiment le déterminant dynamique principal. Donc sachant qu'il est beaucoup plus facile d'observer la lumière que la masse pour les objets distants, il est beaucoup plus facile de mesurer la luminosité d'une galaxie ou sa masse stellaire. Déjà, enfin, c'est pas si simple que ça, mais disons que c'est assez simple de relier la masse stellaire d'une galaxie à sa luminosité. Ou tout autre proxy, par exemple, il me semble que vous avez entendu parler des amas de galaxies, l'émission X, par exemple, des amas de galaxies, ou du gaz chaud intra-amas, ou l'effet du décrément NZ du gaz produit par le gaz chaud dans ces amas. Donc toutes ces quantités sont finalement plus faciles à mesurer que la masse des halos ou des amas. Donc on s'intéresse à la relation entre ces observables, des proxys pour la masse, et la masse vraie. En supposant que le lentille gravitationnel, lui, va nous donner une mesure, va sonder la masse, puisque l'amplitude des déflexions est seulement en fonction de la masse, ni de leur indépendamment de la nature ou de l'état dynamique des objets. Et donc on pourra faire ainsi des cartographies de la masse projetée de manière agnostique, sans supposer de relation entre la lumière ou la masse baryonique, disons, et la masse totale. Je ne parlerai pas, donc c'était prévu que j'en parle, peut-être la prochaine fois, si Françoise m'invite encore, j'essaierai de parler du cisaillement cosmique, donc vraiment de la statistique à très grande échelle de cette distribution de masse, telle que sondée par les... Vraiment, là, on sera dans le régime des distorsions faibles seulement, et on ne s'intéressera pas des objets particuliers, mais à la statistique, aux corrélations à grande échelle de cette distribution de masse. Je ne parlerai pas non plus d'un sujet pour lequel les lentilles gravitationnelles peuvent avoir potentiellement des choses à dire, qui sont les sous-structures sombres. Donc, les simulations numériques nous disent que les halos de matière noire, si la matière noire est vraiment froide, sont entourés de satellites, de ce qu'on appelle de sous-halos. Et ces sous-halos ne sont pas vus de la même façon autour des galaxies, qui semblent avoir assez peu de satellites, de galaxies satellites lumineuses. Et donc ces sous-structures, si elles sont là, mais elles sont éteintes par des processus de physique du gaz, des baryons, on pourrait les détecter juste par leur signature dynamique, leur effet de lentille gravitationnelle. D'autres effets aussi, comme le décalage temporel, le fait que les rayons lumineux qui viennent d'images multiples parcourent des trajectoires différentes, de longueurs différentes, cela va produire un décalage temporel entre des signaux périodiques, ou des signaux, des impulsions lumineuses de signal. Donc ce décalage temporel peut être mesuré. Pas typiquement, c'est un quasar ou un objet ou une supernova qui explose dans une source très lointaine. Les images les rayons lumineux qui vont suivre des trajectoires différentes vont arriver à des moments différents, donc la supernova va apparaître à des moments différents dans les images multiples. Et en exploitant ce décalage temporel, en faisant une modélisation des systèmes de lentilles, on est capable de mesurer des paramètres cosmologiques très importants, comme la constante de Hubble. Il y a d'autres exploitations possibles, comme les micro-lentilles. Et cela, je vais pas en parler non plus. Donc, les observations. Donc, essentiellement, donc mon travail a consisté à utiliser les télescopes optiques, essentiellement optiques et infrarouges proches au sol. Donc ici, je vous ai montré le sommet du volcan Mauna Kea à Hawaï, où il y a un télescope que j'affectionne tout particulièrement, qui est le CFHT, le Canada-France-Hawaï télescope, ainsi que quelques autres télescopes. C'est le meilleur site en termes de qualité d'image au monde. Donc c'est ici que les problèmes que les complications liées à la... Enfin, que les effets observationnels vont être les plus limités, même si je vais parler en détail du problème de la mesure de la forme des galaxies dans des images, dans des données réelles. Évidemment, tout ça s'accompagne aussi de... Ça peut être fait sur d'autres télescopes. Ici, c'est ce sont les télescopes du VLT au Chili. Le télescope spatial Hubble, comme on a vu que le fond diffus cosmologique pouvait aussi transporter un signal d'information de lentillage. J'ai montré le satellite Planck et l'écart du fond diffus. Ici, ce sont les antennes de l'interféromètre ALMA, qui elles aussi peuvent maintenant, avec la résolution de l'interférométrie millimétrique, submillimétrique, peuvent nous renseigner, vraiment nous donner accès à des cartes de très haute résolution angulaire pour faire de la modélisation de lentilles. Et puis pour le futur, il y a des projets, un projet Euclide aussi sur lequel je travaille, j'imagine que Françoise en a parlé, et puis d'autres projets, LSST, donc c'est un grand relevé qui sera fait depuis le sol, et WFIRST qui ressemble un peu plus à Euclide, qui est un autre projet plutôt américain. Donc pour faire apparaître des distorsions très faibles sur les galaxies, il y a un gros travail d'analyse statistique des images, on appelle ça... C'est un problème de morphométrie, donc mesure de forme des galaxies. Je vais revenir là-dessus. Un autre ingrédient important du travail d'analyse des données dans le cadre des lentilles gravitationnelles, c'est ce qu'on appelle ici ce que j'ai appelé les redshifts photométriques. Donc c'est étant donné que l'amplitude d'un effet de lentille dépend des distances entre l'observateur, le déflecteur et la source d'arrière-plan, donc c'est toutes ces distances interviennent pour nous permettre de relier la masse avec l'amplitude des déformations. Donc il convient de connaître à peu près les distances des déflecteurs et des sources. Le problème, c'est que la plupart du temps, les sources que l'on va considérer sont des galaxies très faibles, très peu brillantes. On ne peut pas en faire un reste. On ne peut pas en mesurer un spectre, ou seulement pour quelques objets, mais pas pour des millions de galaxies. Donc on a recours à des techniques de redshift photométrique pour vraiment établir, au moins d'une manière statistique, quelle est la distance des objets d'arrière-plan que l'on considère. Donc c'est un ingrédient très important des observations d'antigravitationnelles. Et puis le régime des distorsions fortes, ce sont essentiellement des événements rares. Ça requiert, ça nécessite l'alignement quasi parfait entre des objets d'avant-plan et des objets d'arrière-plan, des alignements à quelques secondes d'arc, quelques fractions de secondes d'arc. Donc ce sont des événements très rares. Et donc il est très difficile de les rechercher. Donc il y a tout un travail que j'ai conduit ces dernières années sur la recherche automatique de ces objets dans des données d'imagerie. Je ne vais pas vraiment en parler, mais je voulais juste le mentionner pour le garder à l'esprit, que ça semble évident d'analyser, de voir du lensing, des effets strong lensing quand le télescope a pointé là où il fallait. En fait, ce n'est pas si évident que ça de les détecter, et c'est un effort un problème technique assez important. Les grands relevés, donc évidemment, plus à mesure qu'on s'intéresse à des problèmes cosmologiques de plus en plus fins, regarder si des théories de modification de la gravité sont préférables à la relativité générale, si on veut regarder l'effet des neutrinos massifs sur la distribution de masse à grande échelle, si on veut mesurer l'effet de l'énergie noire ou de l'énergie noire, la constante cosmologique sur le taux de croissance des structures. Tous ces effets sont très fins et donc nous imposent de mesurer avec une grande précision ces distorsions à grande échelle. Donc pour ce faire, on est obligé d'avoir recours à des relevés de plus en plus grands qui couvrent des surfaces de plus en plus grandes et qui, comme je vous ai dit au début, étant donné que les distorsions ne peuvent être mesurées que de manière statistique dans le régime des distorsions faibles, on a besoin d'avoir une densité de sources, donc ici quantifiée en objet par minute d'arc carré, typiquement dans le ciel. Donc c'est cette quantité qui va déterminer la précision avec laquelle on pourra mesurer des distorsions. Donc la surface couverte et la profondeur, d'une certaine façon, c'est le nombre de sources qui vont porter l'information de l'anti-H. Donc un précurseur, ça a été le CFHT Legacy Survey, qui a été fait au CFH à Hawaï, qui a sur cette période. Et puis entre-temps, il y a eu d'autres relevés en cours. Le SDSS, qui n'était pas du tout prévu pour faire du lanti-H, parce que la qualité des images n'était pas si bonne que ça. En tout cas, on l'a pensé au début. Finalement, ça avérait être un assez bon relevé pour faire des effets, pour regarder les effets lentilles. Des relevés en cours, comme le KITS, conduit depuis le Chili, un télescope qui s'appelle le VST à côté du télescope du VLT au Mont Paranal, HSC sur le télescope Subaru qui est en cours, Dark Angel Survey, Françoise l'a mentionné aussi. Donc tous ces relevés sont en cours. disons qu'ils ont été classifiés en trois catégories, ça on les a appelés les Stage 1, donc c'est la première phase, génération ou même deuxième génération de relevés d'intérêt cosmologique. La troisième, et ça c'est la quatrième génération. Et donc ici on peut relire le LSST, la mission Euclide et WFIRST. Avec ici, vous voyez des relevés très très grands avec beaucoup de sources d'arrière-plan. Et donc de grandes promesses pour la cosmologie. Donc évidemment, on ne peut pas mesurer le cisaillement si on n'a pas une ellipticité correcte, si on ne parvient pas à mesurer une ellipticité correcte pour une galaxie. Donc ça se fait, le problème est le suivant. Donc une galaxie, intrinsèquement, elle peut ressembler à ça. La lumière qui nous parvient va traverser toutes les différentes grandes structures, va subir une très légère déformation. Vous voyez ici, elles ne sont pas très différentes. Typiquement, c'est un gain d'ellipticité de 0,03. Ce n'est pas grand-chose. Et en même temps, ici, on ne le voit pas, mais il y aurait peut-être un petit point ici, unique, un pixel allumé, c'est une étoile. Et du fait du télescope qu'on utilise, qui a une ouverture finie, du fait que la lumière avant de parvenir à ce télescope, si ce télescope est au sol, va traverser l'atmosphère. Et en traversant l'atmosphère, il va y avoir des effets de... la réponse impulsionnelle va être élargie. Donc l'image d'une étoile, qui est essentiellement une source ponctuelle, va correspondre à une patate, enfin à une... typiquement une gaussienne, enfin un profil un peu gaussien. Cette galaxie va elle aussi subir cette réponse impulsionnelle et donc va apparaître un peu plus floue, va être floutée. Et donc son ellipticité, ainsi que tous ces moments, donc le centroïde va être changé, l'ellipticité va être changée, tous les moments de la distribution de lumière vont être modifiés. Et donc à cela s'ajoute le fait que les galaxies, on reçoit un nombre fini de photons de ces galaxies, donc les images sont bruitées, et en fait on voit plutôt ça pour la galaxie et plutôt ça pour une étoile. Donc à partir de cette image d'une étoile, on doit en déduire ce qu'est la réponse impulsionnelle, et on va essayer de faire une boucle pour corriger du bruit de ces galaxies, corriger de la convolution par cette réponse impulsionnelle pour mesurer l'ellipticité vraie de la source. Et c'est cette ellipticité-là qui est vraiment reliée au cisaillement gravitationnel. Donc pour ce faire, il y a différentes méthodes. J'ai travaillé avec l'Institut d'astrophysique avec Emmanuel Bertin sur une nouvelle méthode qui est Sextractor, un programme d'analyse d'images très connu dans la communauté, qui travaille dans un régime particulier. Ce programme Sextractor est très utilisé par la communauté, mais peu de gens savent qu'en fait, il permet de mesurer la forme très précisément des galaxies, sachant la forme de la PSF, la réponse impulsionnelle. Et donc on l'a améliorée pour ces dernières années dans le cadre d'un projet qui s'appelle Amalgame, pour mesurer la forme des galaxies ici dans un amas de galaxies, où on montre qu'avec une modélisation rapide de toutes les galaxies du champ, sachant la réponse impulsionnelle, on est capable de construire un modèle de la brillance de toutes les galaxies. Donc ici, on voit, ce sont les données en trois couleurs observées. Ici, c'est ce que le programme a été capable de reconstruire comme modèle analytique de cette image. Et ici, les résidus. Donc en fait, le programme marche très très bien. On mesure les formes des galaxies avec une très très grande précision. De manière plus quantitative, on a montré, en participant à un challenge qui s'appelait le Great Tree, Challenge Great Tree. Donc l'idée, c'était un groupe de chercheurs, de scientifiques, a produit des images dans lesquelles, un peu de cette manière-là, produit des images qui portaient un cisaillement non connu, inconnu aux personnes qui participaient au challenge. Et l'idée, c'était de remonter, si vous voulez, le flot de données pour retrouver le cisaillement gamma. En participant à ce challenge, on a vu que G ou gamma, ici, pour faire court, c'est la même chose, mais on a montré que quel que soit la vérité inconnue, on arrivait à mesurer des écarts. Enfin, on arrivait à mesurer avec une grande précision. Les résidus sont très très faibles, de l'ordre de 10-3. Et donc, en fait, c'est pour peu que les galaxies qu'on mesure, un rapport signal sur bruit suffisamment élevé, il n'y a pas de biais dans la mesure des ellipticités. Et donc, on est quasiment dans les clous pour des missions comme Euclid et LSST, même si ces simulations n'ont pas tout à fait toutes les. Ne contiennent pas, si vous voulez, toutes les complications qui sont spécifiques à Euclid ou à LSST. Mais en tout cas, c'est encourageant et ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Et que vraisemblablement, quand la mission sera lancée, on sera capable de mesurer des ellipticités. Donc évidemment, il faut que les ellipticités soient mesurées à 10-3 près. Donc c'est vraiment très très difficile. Mais c'est vraiment important pour voir toutes les déviations à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc toutes les déviations à la relativité générale, les écarts faibles à l'amplitude des fluctuations de densité, par exemple. Un autre effort conduit, en parallèle de l'analyse des données, évidemment, il y a un gros travail de simulation. De nos jours, c'est indispensable de regarder les problèmes cosmologiques aussi bien via les observations que les simulations. Et donc, les simulations cosmologiques, ici, je vous montre un exemple d'une simulation de matière noire pure, c'est la contribution, c'est la composante de matière noire d'une simulation hydrodynamique. Mais donc, ici, je voulais juste vous montrer des quantités qui sont très régulièrement, de manière très routinière maintenant, prédites par les simulations cosmologiques. Donc c'est la structuration en filamentaire, la structure filamentaire de la toile cosmique des grandes structures avec des amas de galaxies, des filaments, des vides, etc. Et donc on est capable de mesurer la quantité d'amas ou la quantité de halo en fonction de la masse. Ici, c'est la fonction de masse des halos. C'est le genre de quantité qui est très facile maintenant à sortir des simulations numériques. Et donc on a une très bonne connaissance de la fonction de masse des halos, et on a une bonne connaissance de le profil de densité des galaxies, des amas de galaxies, en ce qui concerne la matière noire. Maintenant, on arrive avec les simulations plus récentes, depuis peu, on arrive à faire de l'hydrodynamique, des simulations hydrodynamiques, avec sur des tailles et des volumes cosmologiques, d'intérêt cosmologique. Ici, c'est la même zone de la simulation horizon AGN qui a été faite à l'IAP, par des collègues de l'IAP. Donc ici, là, vous voyez la distribution de matière noire. Ici, on voit la température du gaz sur des grandes échelles. Et ici, en zoomant sur un amas de galaxies en particulier, on voit que l'amas, ici, donc c'est la matière noire, composante finalement bien connue par les simulateurs, et puis des quantités plus difficiles à prédire, parce que l'hydrodynamique, la physique des baryons est beaucoup plus compliquée à simuler. Ici, donc c'est la densité du gaz, la température du gaz, etc. Donc regardez un amas ou un halo de manière plus générale, via sa signature dynamique ou essentiellement la matière noire ou via d'autres observables va pas tout à fait nous dire la même chose. Et donc l'intérêt du lentillage, comme je disais, c'est de vraiment nous mesurer ça avec une assez grande précision. Et donc, dans des simulations hydrodynamiques ou cosmologiques, disons, on est capable de, maintenant de construire des cônes de lumière. Donc, si la simulation, on la déroule et à différents battants, on arrive à produire un morceau d'un cône de lumière, comme si on le voyait pour construire une observation virtuelle, disons, c'est un cône de lumière virtuelle. Voilà à peu près ce à quoi il ressemble dans la simulation Horizon AGN, qui fait quand même 100 mégaparsecs de large, donc c'est vraiment un très bon compromis pour en termes de compromis entre taille, évidemment, parce qu'on veut des volumes très grands, mais aussi on veut une bonne résolution pour avoir des galaxies et des structures bien résolues. Donc ces simulations commencent à avoir vraiment à être dans le bon régime pour ce qui est de l'optique gravitationnelle. Et donc, il est tout à fait possible maintenant de prendre des rayons lumineux et de les faire traverser cette simulation et de voir de manière quantitative quel est l'impact de toute cette physique, difficile à appréhender de manière analytique, sur les effets lentilles. Donc, pour ce faire, on divise le cône de lumière en plans, on prédit, sachant la quantité de masse sur ces plans discrets, sachant la quantité de masse sur ces plans distraits, on est capable d'imprimer des petites déviations successives aux rayons lumineux, et ainsi on construit des observables lentilles, comme ici par exemple des cartes de masse. Ici c'est une carte de masse qui fait à peu près un champ d'un degré carré, on ne voit pas bien, il y a des petits bâtons qui représentent le cisaillement. Ici, toutes les pics, ce sont des amas ou des galaxies ou des amas de galaxies. Un petit zoom ici sur un amas de galaxies. Donc ça, c'est qualitatif. Ici, on a essayé de quantifier le spectre de puissance, donc l'amplitude des fluctuations à différentes échelles, en mettant en évidence l'effet ici. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça, mais on peut mettre en évidence l'effet des baryons, qui sont un apport original de cette simu. Sur ce spectre de puissance, on peut montrer que ça a un impact important sur tenir compte ou pas de la physique des baryons dans un contexte cosmologique qui vise à mesurer ce spectre de puissance avec précision. C'est important, ça peut être une source de biais systématique très très significative. Et donc ce travail a été fait par mon étudiante Céline Gouin ces dernières années. Et aussi, donc, on a construit, vu que l'objectif, c'était de vraiment avoir d'une manière autocohérente la lumière, c'est-à-dire la physique du gaz et l'émission de photons et la masse, la dynamique et partant les effets de lentilles, on a essayé de construire ce qu'on appelle des images lentilles avec une simulation end-to-end, donc de bout à bout, à partir de la simulation numérique, de premier principe, d'équation hydrodynamique ou d'équation la gravité, on a tout fait tourner et on arrive à construire maintenant des observables lentilles. Ici, c'est la simulation, c'est l'image d'un amas de galaxies et de tout le cône de lumière qu'il y a derrière cet amas de galaxies avec quelques distorsions. Ici, c'est donc la lumière prédite par la simulation. Ici, c'est la carte de convergence, donc la distribution de masse projetée qui a généré cette. Ici, ce n'est pas un gros amas, vous voyez que les lignes critiques sont ici tracées en bleu ciel, elles ne sont pas très grandes. Ce n'est pas un amas très massif parce que la simulation n'est pas très grande. Mais en tout cas, on est capable de prédire, de construire ce genre d'image qui ressemble à s'y méprendre à des vraies observations. Donc ici, c'est un visualisateur de cette simulation. Donc c'est en ligne. Si vous allez sur ce site, vous pourrez vous promener dans cette simulation et vous verrez à quoi ressemblent les galaxies simulées. Ici, donc dans cette fenêtre, c'est l'univers, cet univers virtuel simulé par qui contient la déformation la déviation des rayons lumineux. Ici, cette même simulation n'a pas de la déviation des rayons lumineux. Donc de temps en temps, ici, on va essayer de s'aligner sur un objet très proche, par exemple cette galaxie-là. Il n'y a pas beaucoup de déviation. Mais sur un objet plus lointain comme celui-là. Bon, enfin, voilà. Je vous invite à vous promener dans cet univers virtuel. Vous verrez ici, voilà, donc des galaxies ici, la masse qui n'est pas toujours, si vous voulez, le mapping entre lumière et masse n'est pas toujours si trivial que ça à faire. Mais en tout cas, cette simulation vraiment prend ça en compte de manière très, très rigoureuse. Et donc, on est capable, à ceci près que la simulation est encore un peu petite, elle ne fait qu'un degré carré, on est capable de prédire la statistique d'événements strong lensing tels que celui-là, ou l'amplitude des fluctuations de densité à plus grande échelle via le spectre de puissance que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc, les résultats sur l'halo de matière noire. Donc, avec muni de ces observations et de ces simulations qui nous aident un peu à parfaire les ingrédients des modèles d'analyse et d'interprétation des observations, voici quelques résultats de travaux ou de quelques illustrations, en tout cas de travaux en cours sur les halos de matière noire. Donc, je rappelle très brièvement l'enjeu. Donc, les simulations dans un contexte lambda CDM ou autre peuvent nous prédire via des simulations numérique par exemple, des halos de matière noire, de masse donnée, de profil densité donnée. Si on y adjoint la physique du gaz, l'hydrodynamique, on est capable de prédire une masse stellaire, des observables X ou Z ou autre chose, et une luminosité, donc des quantités qui sont beaucoup plus proches des observations. Et les observations, elles, donc, on mesure des flux, essentiellement, et si on connaît la distance, on en déduit la luminosité, puis la masse. Et en gros, on parcourt ce schéma, ce flow dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'ici, pour passer de ces observables au halo, aux masses dynamiques, il faut avoir. C'est le lensing qui va nous le donner. Donc, il va nous le donner d'une manière probabiliste. En fait, on va l'écrire de cette façon. On va écrire que la probabilité d'observer une masse de halo donnée, sachant les observables, et on va essayer de contraindre les paramètres de cette relation. Et évidemment, ce n'est pas trivial. Si on regarde encore cette simulation horizon AGN hydrodynamique, ici, en abscisse, il y a la masse des halos, en ordonnée, les masses stellaires. Donc, c'est une relation... Ici, je crois que c'est redshift 0. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois bien. Donc, c'est une relation qui est un peu courbée. Je n'ai pas trop le temps ici d'expliquer le pourquoi cette relation, mais il y a différents phénomènes qui sont... Il y a énormément de processus physiques qui gouvernent la formation de cette relation. Elle est compliquée parce qu'au début, il y a une espèce de relation linéaire. Au temps de chaque halo, disons chaque quantité de masse stellaire ou baryonique, à peu près la même quantité en proportion de matière noire, et puis à mesure que les halos grandissent, que les structures croissent, elles vont monter sur cette relation, s'incurver. Et de temps en temps, si une galaxie tombe dans un amas de galaxies, par exemple, elle va devenir un satellite de cette galaxie. Donc, du coup, la relation entre la masse stellaire et la masse du halo va changer. Donc, c'est complètement non trivial, la relation entre quantité d'étoiles et quantité de matière noire. Et le lensing peut nous aider à aller d'ici, donc des observables, au halo. Donc ça se fait via la mesure dans le régime weak lensing, on le fait via la mesure des distorsions systématiques autour de galaxies. Donc on se donne des galaxies d'une certaine luminosité ou d'une certaine masse stellaire, et on regarde typiquement quel est le degré d'alignement des galaxies d'arrière-plan autour. On construit ce qu'on appelle un profil radial de distorsion. Ici, delta sigma, vous pouvez considérer que c'est le cisaillement, essentiellement. Et donc vous voyez que le profil décroît, comme on s'attend, la densité est plus grande au centre, elle décroît. Si on peut aller bien sûr au-delà d'une simple symétrie sphérique et construire vraiment des cartes de masse à partir avec plus de degrés de liberté, qui s'affranchissent de l'hypothèse de symétrie sphérique, circulaire. Et on peut faire des cartographies à partir du cisaillement, reconstruire la masse projetée selon cette relation. Donc la convergence, c'est essentiellement la masse projetée. Le cisaillement ici, gamma, c'est donné par les ellipticités. Et donc on reconstruit à partir des ellipticités la masse. Dans le cœur des amas, ici, c'est Frontier Field, Françoise en a parlé tout à l'heure. Dans le cœur des amas, le régime de distorsion forte est plus difficile à modéliser. Évidemment, le signal est fort, donc on n'a pas besoin de beaucoup de statistiques pour le faire apparaître, l'exploiter. Mais par contre, l'analyse est difficile. Ce n'est pas une simple inversion d'une équation ici que vous voyez essentiellement linéaire. Il faut déjà identifier les systèmes d'images multiples. Plus on a des données profondes, Donc, c'est-à-dire plus on voit de sources d'arrière-plan, plus, si vous voulez, le nombre d'objets, de systèmes d'images multiples va nous aider à contraindre les paramètres et à modéliser cette distribution de masse. Ici, c'était avec des données spatiales, mais peu profondes. L'effort, l'initiative des Frontier Fields, donc ça a été d'observer, de faire des imageries très profondes de quelques amas de galaxies, extrêmement profondes, et à ce moment-là, on voit beaucoup, beaucoup de sources d'arrière-plan, plus d'objets potentiellement multiplement imagés et potentiellement distordus. Et maintenant, avec typiquement une centaine ou quelques centaines d'images multiples par amas et beaucoup d'objets sur lesquels on va pouvoir mesurer le cisaillement weak lensing, les mesures de cisaillement, pardon. On peut faire des reconstructions de masse très précises du cœur des amas. Donc ici, voilà, par exemple, la distribution, les systèmes de lignes critiques dans cet amas. Ici, en couleur, on voit les conjugaisons de points, donc les systèmes d'images multiples. Et pour s'assurer que des images multiples sont vraiment des images multiples, il faut avoir une bonne résolution spatiale. Françoise a montré, je crois, à un moment, la conjugaison d'images multiples quasiment miroirs les unes des autres par rapport à une critique, disons image miroir l'une de l'autre par rapport à une critique. Donc la morphologie des images suppose des données spatiales de bonne résolution, et puis aussi de mesures suppose la connaissance des distances. Et là, pour faire du strong lensing, on a vraiment besoin de redshift spectroscopique. On ne peut pas se contenter de redshift photométrique. Mais enfin, avec tous ces ingrédients, on est capable de bien reconstruire la distribution de masse, avec quand même quelques écarts d'une technique à l'autre. Ici, je mentionne ce travail fait par Lens Tool, donc les collaborateurs de Jean-Paul Kneb à Marseille. Enfin, d'autres techniques ne vont pas forcément donner exactement la même distribution de masse et exactement le même système d'images multiples. Pour modéliser aussi des galaxies, typiquement les galaxies sont... comme je vous ai montré tout à l'heure, des anneaux d'Einstein autour de galaxies elliptiques. Ici, ils ne se voient pas très bien. Mais le problème est le même. On va essayer, dans le régime strong lensing, de mesurer la masse de ces galaxies. En général, les galaxies sont des objets qui sont beaucoup plus dynamiquement beaucoup plus relaxés que des amas. Donc, ils ont un potentiel gravitationnel beaucoup plus régulier. Et la plupart du temps, on parvient à les modéliser avec des hypothèses beaucoup plus réduites sur beaucoup plus simple sur la distribution de masse. Un potentiel typiquement elliptique avec un potentiel elliptique, on arrive à corriger les distorsions et à reconstruire la masse précise de ces objets, reconstruire la forme de la source d'arrière-plan. Ici, par exemple, en soustrayant sur l'une d'elles l'objet d'avant-plan, on voit un anneau d'Einstein cassé, parce que le potentiel n'est pas strictement circulaire. On arrive à le modéliser, on voit qu'il y a très peu de résidus, on peut reconstruire la source, donc corriger des distorsions, et mesurer la masse de cet objet à l'intérieur du rayon d'Einstein avec une grande précision. Typiquement, on peut mesurer un rayon d'Einstein à quelques pourcents, donc mesurer la masse incluse dans le rayon d'Einstein à quelques pourcents, c'est exceptionnel. En extragalactique, je pense que c'est la meilleure mesure de masse la plus précise que l'on puisse faire. Le problème, c'est que, comme c'est du strong lensing, c'est très localisé. On peut mesurer cette masse très précisément qu'à un rayon particulier. Et pour vraiment déduire des choses sur le profil de densité des halos qui entourent ces galaxies, il faut aller au-delà. Donc il faut vraiment avoir plusieurs points sur une courbe. Ici, c'est le log de la masse en fonction du rayon. Donc si le rayon d'Einstein ici est mesuré avec une très très grande précision, donc on veut aller au-delà avec du weak lensing, donc on reconstruit un profil de cisaillement, et puis on peut même essayer d'aller en deçà, plus à l'intérieur de rayon d'Einstein, en mesurant la dynamique des étoiles, donc la cinématique des étoiles, et en faisant un traitement dynamique, une modélisation dynamique d'informations spectroscopiques qu'on peut obtenir des étoiles dans la galaxie déflectrice. Voilà, donc ça nous donne un point de mesure encore à un rayon encore inférieur, et comme ça, on arrive à tout rayon à reconstruire la distribution de masse des galaxies. On a pu comme ça mesurer avec une grande précision que le profil de densité totale était très proche de 2, donc un profil de distribution de masse isotherme avec une faible dispersion. On a aussi montré qu'il y avait peu d'évolution avec le avec le redshift. Donc ce profil de densité s'établit assez tôt, à des redshifts au-delà de 1, et après, dynamiquement, les galaxies, bien sûr, elles continuent à croître, à grossir par accrétion successive, mais sans que cette pente, donc la dérivée logarithmique du profil de densité, ne change beaucoup. Et puis, donc, on a comparé ces résultats observationnels avec des simulations numériques. À nouveau, simulation horizon AGN de l'IAP, et on a vu que les simulations, enfin les galaxies prédites par la simulation dynamique avaient à peu près les mêmes profils de densité, les mêmes tailles et les mêmes masses stellaires que les observations, les mêmes galaxies dans les mêmes halos, donc c'est très 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 encourageant à ce niveau aussi. On peut regarder à plus grand rayon, ici c'est le profil de densité en fonction de profil de cisaillement jusqu'à des rayons beaucoup plus grands pour différentes populations de galaxies à différents redshifts. Donc ça a été fait dans le CFHT Legacy Survey. On voit que ici, à mesure que la masse augmente, j'ai un doute. La masse augmente en descendant ici et le redshift augmente dans ce sens. Donc on voit qu'on arrive quand même à mesurer avec une grande précision ces profils de cisaillement. Ici, des galaxies d'amas, juste pour montrer, illustrer le fait que les galaxies d'amas, ici, c'est, donc je montre ici le profil de cisaillement de galaxies qui ne sont pas dans un amas de galaxies. Ici, le profil de cisaillement de galaxies qui sont membres d'un amas. Et en fait, cette différence de masse ou d'amplitude de cisaillement est la signature de ce qu'on appelle du stripping, donc du fait que les galaxies, quand elles tombent dans le potentiel gravitationnel de l'amas, vont subir des effets de marée et donc vont perdre leur enveloppe externe, essentiellement en fait de matière noire, et donc vont être mises à nu, disons, et à la fin, la galaxie satellite ou membre de l'amas, disons, ne contient quasiment plus que la masse stellaire. Un travail un peu similaire dans les amas, dans le projet Amalgame, que j'ai conduit à l'IAP. Donc, l'idée, c'était de recenser à peu une centaine d'amas, un peu plus de 100 amas, dans cet intervalle de redshift, de récupérer des données dans les archives des télescopes du CFH et de Subaru, pour à peu près une centaine d'amas, un peu plus, et de mesurer statistiquement, d'essayer de construire la statistique de masse et de profil de densité de cet échantillon. Donc, on a fait évidemment, le rapport signal sur bruit par amas est assez faible. On est dans le régime du cisaillement faible. Mais on arrive quand même en combinant, en stackant, donc en coadditionnant, si vous voulez, le signal et le bruit de grand nombre d'amas. Ici, 40, 40, 40, en trois intervalles de redshift, on arrive à reconstruire un profil très, très précis et à déduire la masse avec une grande précision et le profil avec une grande précision. Donc, en faisant comme ça, en renforçant, si vous voulez, le signal par la statistique d'un grand nombre d'amas, on arrive à mesurer typiquement des masses qui sont à peu près 8, 10 puissance 14 masses solaires. Et comme on a beaucoup d'objets, on arrive à avoir un rapport signal sur bruit de 3 à peu près, à 3%, donc 30, sur le profil moyen. Donc typiquement, c'est entre 1 et 10 par amas, le rapport signal sur bruit, mais sur la masse de la combinaison de toute cette population d'amas, on a une précision de 3%. Ce qui est vraiment excellent pour faire envisager des calibrations, des étalonnages, des relations entre masse et observable. Et puis, outre la masse, on arrive à mesurer ce qu'on appelle la concentration, donc la forme du profil. Est-ce que le profil est parfaitement une pente, une loi de puissance, isotherme ou autre? Ou typiquement, si on en croit les simulations numériques, le profil serait plutôt du type Navarro-Franken-White avec un rayon de coupure dans lequel. Pardon, un rayon caractéristique auquel la densité, la pente du profil de densité est de l'ordre de moins 2, et puis en deçà le profil un peu plus plat et en deçà un peu plus pentu, et on arrive à mesurer la position de ce rayon de transition, ce rayon caractéristique, via un paramètre qui s'appelle la concentration. Et donc en mettant toute cette population d'amas dans un plan masse-concentration, on arrive à les placer, on se rend compte qu'ils sont bien en accord avec la relation masse-concentration des simulations. En conclusion, on va dire que le bilan détaillé de la masse autour des galaxies et des amas est maintenant bien accessible et bien établi. On a des bons outils qui peuvent nous permettre de mesurer des masses à quelques pourcents près, pourvu que on prend bien soin du contrôle des effets systématiques. Donc j'ai mentionné la difficulté de mesurer la forme des galaxies en présence d'une atmosphère et d'une réponse impulsionnelle qui est bien souvent trop grande et qui est variable. C'est pas tant le fait que la réponse impulsionnelle est grande qui nous gêne, mais c'est le fait qu'elle puisse varier d'une position à l'autre dans le champ, ou qu'elle puisse varier d'un moment à l'autre parce que l'atmosphère au-dessus du télescope a changé, parce que le télescope a un peu bougé. Donc toutes ces variations qui sont difficiles à corriger dans les images sont bien sûr difficiles à modéliser et bien souvent sont en fait des facteurs limitants pour les analyses de l'antigravitationnel. Donc le centre des halos le profil des halos est compatible avec le profil de type Navarro-Franklin-White. Il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau, même s'il y a la possibilité que, vraiment dans les régions les plus centrales, inférieures à 20 kiloparsecs, peut-être que le profil de densité est encore un peu plus plat. Je ne suis pas venu sur les détails de ce qui donne une évidence pour ça, mais bon, ça pourrait ouvrir la porte à différentes interprétations. Soit c'est la distribution de masse c'est la matière noire qui est peut-être un peu plus chaude que ce qu'on croit, qui n'est pas parfaitement froide. Peut-être que c'est la rétroaction de la physique des gaz et des baryons dans le processus de formation de l'AMA, qui va un peu lisser, si vous voulez, la pente du profil de densité. Évidemment, ça met l'accent sur le fait qu'il y a une très forte intrication, donc toutes ces composantes, la matière noire, les baryons, sont très couplées au centre des galaxies et des amas. Et donc, pour vraiment faire la lumière sur le profil de densité, l'état dynamique, mesurer peut-être, mettre en évidence des écarts à une matière noire parfaitement froide, il faut vraiment faire une combinaison de tous les régimes du Lensing, donc le régime fort, le régime faible, inclure la dynamique et les autres observables. Mais pour le moment, tout cet effort a l'air d'être en bon accord avec les prédictions des simulations hydrodynamiques, qui, pourvu que ces simulations incluent la physique de rétroaction des trous noirs suprémassifs au centre des galaxies. Et donc on a un bon accord entre observables, ici masse stellaire de la galaxie centrale et la masse des halos. Et puis donc il y a un autre domaine que je n'ai pas abordé aujourd'hui, qui est le cisaillement cosmique, qui nous donne maintenant des contraintes fortes sur la quantité de matière noire, donc les paramètres cosmologiques tels que oméga matière sigma 8. Et puis c'est une sonde unique pour l'énergie noire. Et c'est ce qui a... C'est un des drivers principaux de la mission Planck, la mission, mission Euclide. Je crois que tu en as parlé, François. Non, donc je vais pas revenir là-dessus, mais vraiment avec Euclide, on va pouvoir mesurer l'amplitude des fluctuations de densité à différents redshifts. L'effort est vraiment mis non seulement sur la qualité des images, puisque c'est une mission spatiale, et sur la couverture du ciel, quasiment donc 15 000 degrés carrés. Plus d'un quart, un tiers du ciel, qui, une fois qu'on a exclu, c'est quasiment tout le ciel observable, une fois qu'on a exclu le plan de la galaxie et le plan de l'écliptique, donc tout le ciel qui est vraiment sombre et qui est extragalactique va être observé par Euclide, et 15 000 degrés carrés, et avec beaucoup de sources d'arrière-plan, une grande précision sur la mesure du spectre de puissance des fluctuations de densité. La variation avec le temps, donc si, étant donné que la mission va avoir une approche tomographique, c'est-à-dire qu'on va être capable, en prenant soin d'avoir d'avoir des observations multilongueur d'onde, de connaître le redshift, donc la distance des sources d'arrière-plan, et en mesurant la variation d'amplitude des fluctuations pour différentes populations de sources, on va être capable de mesurer le taux de croissance des structures et aussi l'expansion de l'univers. Donc c'est vraiment une mission extrêmement... sur laquelle nous comptons énormément pour faire des progrès, donc pour les grandes structures, mais de manière plus générale pour la relation entre masse et observable, et vraiment comprendre, relier la physique des galaxies et les halos de matière noire, en tout cas la physique de la matière noire qui est plus facile et en général mieux comprise, en tout cas dans les simulations numériques. Voilà.